Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue de Radio Grand Papier, votre rendez-vous mensuel de bande dessinée sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Peut-être qu'un jour j'arriverai à faire cette petite intro sans mon copion, mais ce n'est pas encore le cas. Bonsoir Johanna.
Bonsoir.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Formidable. Bonsoir Bertrand et bonsoir Jean-François qui sont là comme toutes les émissions à la technique, mais vous n'entendrez pas leur voix. Ah ben voilà, vous entendrez leur voix quand même cette fois-ci. Voilà, donc Johanna me faisait remarquer que c'est la première émission que nous faisons cette année avec la lumière du jour. En effet, il est 19h35, il fait encore clair dehors, donc c'est fort agréable. C'est le printemps, et le printemps est synonyme de... C'est une période où les gens, en général, font leur communion et où se marient. Et donc, on a le grand privilège de vous annoncer que nous avons reçu aujourd'hui même, il n'y a pas plus tard que un quart d'heure, les invitations officielles, les faire-part de mariage de Nicolas Verstappen et Sandra Renson.
Wouhou !
Voilà.
Félicitations.
Donc on mettra sur le blog l'adresse complète du lieu, toutes les infos pratiques pour s'y rendre.
Tous les auditeurs sont invités, bien sûr.
Et tous les auditeurs fidèles, Vincent, de Radio Grand Papier seront invités. Donc plus d'informations, plus de détails pratiques.
Surtout le numéro de compte en banque.
Plus tard sur le blog. Et alors donc, le numéro de compte, petit hubble pour qu'on décolle. Donc pour qu'ils puissent avoir un beau voyage de noces. Voilà, aujourd'hui nous recevons Frémok, les gens de la plateforme et non de la maison d'édition, les gens de la plateforme Frémok, sans accent. Ah non, avec accent. Donc vers 20h30, 20h45, et puis avant, les rubriques habituelles et donc les nouveautés, et deux rubriques qu'on n'avait plus faites depuis un certain temps, la rubrique Grand Papier et la rubrique BD oubliée. Voilà, alors on va commencer par la rubrique nouveautés, c'est Vincent qui s'y colle pour commencer. Paulina de Bastien Vives et Scenes from an Impending Marriage, un thème de saison. D'Adrien Thominet, on commence avec le... Pas comme tu veux, en fait, Vincent.
Peut-être Adrien Thominet, non, moi j'ai le titre en français, Scène d'un mariage imminent, ça sort chez Delcourt en français fin avril. Donc je me risquerai pas au titre en anglais, qui est paru là tout récemment. Qui est assez étonnant dans le parcours d'Adrien Thominet, je trouve, parce que jusque-là, en tout cas moi, il m'avait plus habitué à des histoires un peu déprimantes, avec un aspect drôle très, très marqué parfois, mais quand même des histoires très, très sombres ou très, très graves, notamment, je pense particulièrement à Loin d'être parfait, que j'aime beaucoup et qui parle de son rapport à ses racines, de un peu son obsession en tant qu'Américain d'origine asiatique, notamment la culture envers les filles occidentales, et inversement sa copine à un moment donné qui elle sort avec un occidental passionné de culture japonaise, lui ne supporte absolument pas ça. Il n'y a pas ça du tout dans, quoique un tout petit peu finalement, filigrane dans Scène d'un mariage imminent, qui est vraiment résolument sur le mode humoristique, qui est un petit livre...
Petit livre bleu.
Voilà, carré, avec en noir et blanc toujours, mais avec un dessin beaucoup moins... on sent beaucoup moins l'influence de quelqu'un dont j'ai oublié le nom là tout de suite, de Daniel Clowes. Beaucoup plus, à la limite, quand on ouvre le livre, la deuxième et la troisième de couverture, on a l'impression de voir du Schultz, les peanuts de Schultz, ça c'est vraiment très marqué. Et ça transparaît aussi dans le reste de l'histoire, même si un petit peu moins, parfois on a un peu l'impression d'avoir des petits corps et des grosses têtes, mais il y a vraiment le côté très scénette, humoristique sur la préparation d'un mariage, les semaines qui précèdent directement son mariage avec Sandra, je crois. Et on devine à la fin.
Avec Sandra, c'est incroyable.
Que c'est la même.
Tout début de l'émission, c'est formidable.
Et donc voilà, tous les petits tracas qui précèdent, trouver une salle, trouver un DJ, est-ce que c'est le bon, est-ce que une cravate, est-ce que tu es sûr que je ne peux pas remettre la cravate que j'avais achetée pour l'enterrement de ta grand-mère, mais non, c'est pas possible, etc. Donc vraiment des petites scènes qui se suivent très rapidement. Et à la fin, on comprend, en tout cas on devine, que l'idée est venue de donc sa désormais épouse de dessiner ces quelques scènes pour servir de remerciement à tous les invités qui sont venus au mariage. Et au lieu d'avoir une friandise avec le nom des mariés dessus, ils offrent un petit livret avec l'histoire. Et donc on devine, en tout cas on se dit que ça doit être quelque chose comme ça.
Et c'est effectivement le cas, puisque j'ai l'attaché de presse de Delcourt m'a reçu le livret de remerciement, qui est effectivement donc il s'est amusé à faire ce bouquin qui a été offert d'abord comme le livret de remerciement à la famille, à tout le monde, et aussi aux éditeurs, aux différents éditeurs, et qui est finalement devenu après un bouquin à part entière chez Drouin et Quarterly. Et c'est donc effectivement du récit autobiographique qui a été détourné, enfin ce carnet de remerciements qui a été détourné pour en faire un bouquin.
C'est pas spécialement étonnant, parce qu'en fait il y a un aspect un peu exercice de style là-dedans, et quelque chose qui reste très gentillé par rapport à l'ensemble de son œuvre, qui est quand même relativement sombre, et dans lequel il n'a pas peur de montrer les fêlures de la vie comme quelque chose de vraiment triste et envahissant. Or ici, on est devant quelque chose qui est en effet plus proche de Schulz, une forme d'ironie, les petites ironies de la vie, les petites impasses du couple, mais rien n'est grave puisque de toute façon on s'aime quand même et ce genre de choses.
Oui, c'est clairement une récréation, quoi, vraiment une respiration, oui, pour lui. Oui, encore, on sent quand même un peu des petites manies quand elle lui dit au début, tiens, est-ce qu'on prendrait ce faire-part tout fait sur Internet, et qu'il dit non, je vais le faire moi-même. Et il lui montre quelque chose, elle lui dit oui, c'est pas mal, et lui, il veut que ce soit parfait, donc il se lance dans un... On sent quand même un peu les obsessions derrière l'humour, mais c'est bon, c'est clairement une récréation pour lui. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est pas non plus un Tominé majeur, clairement pas, mais bon, c'est... Pour tous ceux et celles qui se sont mariés ou qui ont préparé ça... On reconnaît plein de choses, peut-être pas tout, mais clairement ça parle, quoi.
Oui. C'en est terrifiant, parce que pour être en plein dedans, je peux dire que quand j'ai lu le bouquin, je me suis marré du début à la fin en me retrouvant dans chaque scène, parce que ce qui est terrible, c'est que finalement, le mariage étant très rituel, même la préparation est ultra ritualisée, et on passe tous par les mêmes choses, les mêmes scènes. Il y a toute la scène du début, le choix des invités, où il s'amusait à assurer le nom, parce que effectivement, comme ce sont effectivement des personnes invitées, mais que apparemment ils sont pas tous les deux d'accord sur qui doit venir ou pas venir. Il a préféré après camoufler les noms de ces personnes non désirées par l'un ou par l'autre. Et qui fonctionne très bien. Et puis, il y a effectivement tout ce rapport ethnique aussi, puisque lui est d'origine japonaise, elle d'origine irlandaise. Il y a une scène qui est assez drôle, où il veut essayer de créer une sorte de zone tampon entre les Asiatiques calmes et ces braillards d'Irlandais, et essayer d'imaginer comment faire, ou même le choix de l'orchestre, des musiciens, puisque d'un côté la mère japonaise veut des joueurs de tambour, et elle voudrait plutôt, la mère de la future mariée veut des joueurs de cornemuse, et d'imaginer forcément la cacophonie que ça peut engendrer. Donc c'est plein de petites anecdotes, mais qui marchent assez bien, et c'était gai de trouver, enfin pour moi en tout cas, de lire du Tominé, dont je suis un grand fan, de dire quelque chose de juste divertissant, drôle et assez bien fait.
Lucité, au niveau du trait, il a fait quelque chose d'assez léger, en effet, d'assez schulzien, avec des traits peut-être un peu discontinus, comme ça, un truc assez léger. Donc il y a dans la forme même peut-être quelque chose qu'il pourra réemployer dans de futurs albums, une forme plus légère en tout cas, qui est peut-être le vrai apprentissage pour lui dans cet album.
Oui, qui est déjà dans le dernier Close, le Wilson, il y avait déjà on sentait chez Klaus aussi, je trouve, une forte influence de, parfois dans le dessin, il y a comme il utilise plusieurs styles dans Wilson, il y a certaines planches qui sont dessinées aussi à la Schulz. Je ne sais pas si c'est l'effet des réimpressions justement chez Fantagraphics de l'intégrale des Peanuts il n'y a pas longtemps, qui je crois va marquer durablement tout un lectorat, puisque d'un coup il y a une œuvre qui est exhumée dans son intégralité chez un éditeur alternatif. Ça peut être intéressant, effectivement. Je pense que l'impact est peut-être déjà en train de se faire sentir. Mm-hmm. Donc ça peut être effectivement intéressant de voir comment tous ces auteurs liés à Fantagraphics ou dans les Quarterly vont se réapproprier cet héritage. qui ressort maintenant.
Ouais. Après, moi qui ne me suis pas marié et qui n'est pas directement concerné, moi je me suis un peu ennuyé quand même en lisant ce livre. Donc voilà, les étapes se succèdent et bon, j'ai rigolé 2-3 fois, mais pas beaucoup plus non plus. Par contre, je reconnaissais assez bien les angoisses de Tom Inné, le côté très control freak, comme il disait à un moment, toujours essayer d'avoir tout sous contrôle, essayer de... Bon voilà, ça c'était assez chouette de retrouver un peu ses obsessions, en effet, comme disait Vincent, même au travers de ce côté plus léger.
Mais... Le canevas est clairement un canevas de comédie voilà. américaine. Enfin, tu vois, les familles très, très disparates et puis le couple qui doit se réorganiser autour de l'événement, on pense directement à 3-4 films assez légers. Donc, ça, de fait, comme on dit maintenant que c'est un cadeau, ça ne m'étonne guère qu'il ait dû mettre quantité d'eau dans son vin et plutôt prendre sur lui la critique que de la répandre sur la société et sur la convention du mariage elle-même.
Voilà, mais c'est un objet, voilà, c'est un objet particulier en tout cas dans son parcours et ça valait de toute façon largement la peine d'en parler. Et on enchaîne alors avec le, on enchaîne par un pas de, j'essaye de faire des, j'essaye de faire des enchaînements à la Guy Lux. Je suis pas encore totalement, totalement prêt, mais voilà, on enchaîne en parlant de Paulina, qui est un livre sur la danse.
Sur la danse classique voilà. Et la danse moderne. Donc, c'est 200 pages de Bastien Vives qui sont parues chez Casterman là tout récemment aussi. Bastien Vives, auteur du Goût du chlore, qui avait eu un prix essentiel chez, à Angoulême.
Je ne me souviens plus.
Donc, oui. Déjà un auteur, un jeune auteur, mais déjà bien reconnu.
Révélation en 2008.
C'est ça. Et donc, voilà, sort Paulina sur cette jeune danseuse russe qui, toute jeune, arrive à l'école et est repérée par, par un maître un peu bourru, un grand type barbu avec des lunettes, donc, dont on ne voit pas beaucoup les traits, puisque c'est vraiment un visage mangé par la barbe et par les lunettes sans qu'on voit les yeux derrière, qui la maltraite un petit peu au moment de l'examen d'entrée, en disant bon, qu'elle n'était pas assez souple et que la souplesse était tout dans la danse. Et qui pourtant va la suivre, donc elle va avoir la place dans cette école, il va la suivre. Elle va plusieurs fois suivre ses cours, et puis ça va être toujours un petit peu interrompu. À un moment donné, un peu plus tard, elle va suivre son ami, ils vont partir comme ça à plusieurs pour essayer de rejoindre la troupe d'un autre maître, d'un autre chorégraphe.
Et donc, plus moderne.
Plus moderne, plus expérimental, lui, et ultra classique. Et mais finalement, elle va le revoir. Donc il y a une espèce d'avancée un peu chaotique dans la vie de Paulina jusqu'à ce qu'elle trouve, à un moment donné aussi, elle va quitter son ami, quitter ce nouveau chorégraphe pour partir à Berlin dans l'idée de rejoindre quelqu'un d'autre qui n'y sera pas. Et donc, un peu par hasard, elle va tomber sur des metteurs en scène de théâtre. Ils vont créer une espèce de nouvelle forme mêlant chorégraphie, mêlant danse et théâtre à Berlin. Et là, ça va être la reconnaissance. Donc il y a cette espèce d'avancée très chaotique de la vie de Paulina. Et dans son art, jusqu'à une vraie reconnaissance. Et je trouve que Bastien...
Et la réalisation en tant qu'artiste, en fait.
Et puis le retour après à l'école, le retour auprès de ce maître qui aura vieilli. Et cette danse, cette chorégraphie qu'il avait voulu lui faire danser, mais qu'elle est partie juste avant, une espèce de chorégraphie mythique qu'il n'a jamais pu réaliser, qu'il aurait voulu réaliser avec elle, mais jusqu'à ce qu'elle s'en aille et qu'elle le quitte. Et... Je trouve ce qui est peut-être le plus remarquable dans Paulina, c'est la façon qu'il a de dessiner le mouvement, mais sans du tout vouloir retranscrire le mouvement. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de trait pour montrer que la jambe se déplace. C'est juste des espèces d'instantanés mis les uns à côté des autres. Et je trouve que pourtant, il y a un vrai souffle dans la représentation de la danse. Je crois qu'il a beaucoup assisté, il a beaucoup regardé, parce que Paulina, c'est le prénom d'une vraie danseuse russe. Il a beaucoup regardé, je ne sais pas où vous avez lu ça. Des vidéos sur YouTube de cette danseuse, il a beaucoup assisté aussi à des cours de gens qu'il connaît, et je trouve qu'il a vraiment beaucoup, très très bien retranscrit le mouvement sans chercher particulièrement à artificiellement représenter le mouvement.
Oui, il y a ça dans le travail, en fait, il y a un album d'Edmo Mondouin, dont j'ai oublié le titre, et qui met aussi en scène une danseuse, et qui prend aussi ce parti graphique de ne pas rendre le mouvement à travers de traits de mouvement ou de vitesse, mais de jouer plus sur la différence de position entre les deux corps et de suggérer ce mouvement-là. Je trouve qu'il y avait vraiment une... Enfin, j'ai le sentiment, en tout cas, de retrouver cette influence de Baudouin dans ce rapport-là. Mais effectivement, esthétiquement, c'est très réussi. Mais je pense que... Est-ce que l'album parle de la danse? Moi, j'avais le sentiment, justement, que la danse était une excuse, que ça aurait pu... pas forcément être un bouquin sur le football ou sur autre chose, mais que dans le fond, ce qui était important, c'est vraiment le rapport élève-mentor, que ça pourrait s'appliquer à, je sais pas, aux échecs, un maître, quelques maîtres que
dessin.
Ce soit, ou au dessin. Effectivement, il y a c'est plus finalement comment dans la chronique que j'avais écrite, je parlais d'une chronique que j'avais écrite, j'avais parlé de Pygmalion et de ce rapport à la sculpture, par exemple, où il essaye de la sculpter, mais à l'inverse de Pygmalion, qui essaye de faire vivre une sculpture en la rendant parfaite. Lui, il essaye de prendre un être vivant et d'en faire une sculpture à son idée. Et c'est vraiment ce rapport-là de voir est-ce qu'elle peut s'échapper de son influence, parce qu'à un moment on a l'impression qu'elle veut s'échapper de ce personnage qui est peut-être un peu trop pesant, et puis d'un autre côté, au cours du récit, de se demander si elle veut vraiment s'en échapper, puisqu'il garde même à distance.
Elle revient toujours un peu vers lui.
Hein, elle revient toujours vers lui, accidentellement, volontairement, et c'est ça que je trouve particulièrement... juste dans le bouquin, au point de vue de l'émotion, c'est que c'est la retranscription de ce rapport-là, de la complexité, et au travers de quelque chose qui est pas muet, mais où il y a énormément de silence, où tout se passe beaucoup dans les regards, dans les temps morts, et ça, c'est assez...
La force, je crois, de Vives dans ce bouquin et comme dans d'autres, c'est la manière dont il est capable de retranscrire les petites lâchetés, en fait. Les petites lâchetés, les grandes lâchetés, c'est-à-dire qui se passent par énormément de non-dits. Et donc, la subtilité dans le rapport au mentor passe par la manière dont elle va s'enfouir sans rien dire, par exemple, dans la manière dont, dans la rencontre finale avec le mentor, après qu'elle soit devenue ce soir réalisée en tant qu'artiste, il va lui avouer que peut-être cette grande pièce qu'il aurait voulu faire avec elle, ben, il avoue, même sans jamais le dire, que peut-être qu'il n'aura jamais été capable de la mener à bout, et que donc c'est bien qu'elle soit partie pour lui éviter de devoir lui-même abandonner cette espèce de grande œuvre qui ne pourra jamais être. Donc il y a dans la manière dont il retient en suspens comme ça les moments où on devrait dire les choses, il est très fort. Maintenant, parfois, le reproche que je fais généralement à Vives, c'est qu'il y a un côté un peu One Car Wide dans In the Mood for Love, c'est genre oh, c'est tellement beau quand on ne réalise pas les choses, quand elle reste dans le non-dit et dans le non-fait, etc. Parfois, on a envie d'être un peu plus dans le film américain dans lequel on s'embrasse à pleine bouche et on couche vraiment, plutôt qu'être dans cette espèce de légèreté, de la possibilité, de la potentialité, de l'amour, de la réalisation, etc. Bon, par rapport à ça, je trouve que ce livre-ci, justement, passe un peu des caps par rapport à ça. Le centre, en fait, de ce bouquin, c'est en effet ce qui fait qu'elle revient toujours à ce mentor, c'est la question de la réalisation de soi-même en tant qu'artiste, puisque Paulina se trouve face à la question: est-ce que tu veux être une artiste? Pourquoi est-ce que tu fais des choses? Pourquoi est-ce que tu veux faire de l'art, et question auxquelles elle ne répond qu'en étant partie très loin de lui. Et donc, quand elle revient à la fin du livre pour le voir, c'est avec cette réponse qu'elle a été capable de donner et qui révèle le fait que son mentor, lui, n'a jamais pu la réaliser. Donc, il y a quelque part le maître, l'élève dépassant le maître, etc. Donc, toute une série de problématiques assez central en art qui sont là esquissés à travers ça. Au niveau du dessin, on doit peut-être en parler, c'est un dessin qui est fait à la tablette graphique, un peu rêche, c'est un travaillé en noir et blanc plus une couche de gris qui refroidit quand même salement son dessin. On parlait de Adrian Tomine et à la Schulz, ici on est quelque chose qui est quand même très plaqué, même si c'est parfois assez brillant. C'est un travail qu'il a fait de manière assez simple, puisqu'il n'utilise pas du tout des brosses dans Photoshop, mais plutôt un outil de pinceau assez simple, avec une modulation par pression, pour ceux qui voient un peu ce que c'est qu'une tablette Wacom. Et donc on a quelque chose qui est à la fois très très roots, très très brut de décoffrage comme ça, et à la fois très très maniéré, puisque Vivet c'est quand même un type qui a une sacrée domination du dessin, et notamment du dessin des corps. Il y a très peu de décors, il se focalise vraiment sur l'essentiel au niveau du dessin, pour ne vraiment dessiner que les parties qui lui sont strictement nécessaires. Une portion de décor ici est suffisante pour évoquer un grand théâtre russe, une portion ici est suffisante pour évoquer Berlin, et pour le reste, il dessine ce visage de Paulina et des autres intervenants à grands coups parfois et à grande masse noire, avec une très grande légèreté, enfin une très grande, on peut dire, liberté.
Voilà.
Ça y est, je suis coupée. Tu m'as pris un des mots que je voulais dire tout de suite.
Liberté.
Oh, ça va.
Liberté.
Je voulais dire légèreté. Je voulais parler de légèreté. Parce que je trouve que c'est. Je sais pas si l'opposé de laborieux, mais pour moi, j'ai trouvé ça extrêmement maîtrisé. La narration est très bien maîtrisée aussi. Parfois, le dessin, tu regardes bien, il y a effectivement très peu d'éléments. Et en même temps, tu es complètement pris dans la narration. Et je trouve ça vraiment très, très maîtrisé. Et alors, il a une façon aussi de passer d'une époque à l'autre de sa vie. Qui est pour moi hyper efficace et assez originale, en fait. Et je me demande même pourquoi, à la fin du livre, en fait, il y a un moment où il pose une page, genre 3 ans plus tard, 1 an plus tard, et j'ai trouvé même ça dommage, parce qu'en fait, depuis le début du bouquin, on passe d'un passage de sa vie à un autre, ça se fait même parfois en plein milieu d'une page, je trouve ça terrible.
Sans que ce soit explicité, quoi, tu veux dire.
Ça s'est toujours passé tout seul, et il y a un moment, il le mentionne, alors que c'était pas... Et je voudrais revenir sur les personnages, et j'ai vraiment trouvé ça très impressionnant, la manière dont il a développé le caractère de tous les personnages, que ce soit son premier professeur ou la femme ensuite à qui elle a affaire dans le théâtre, pour avoir eu affaire à des professeurs dans les conservatoires, par exemple, en étant petite. Je sais pas comment il a été chercher ça lui-même. Enfin, il a pas été danseuse, mais oui, peut-être en fait. Peut-être
Bastien Vivet, ça peut-être été danseuse. Bastien nous en parlera la prochaine fois.
De fascination pour des personnages qui sont vraiment impénétrables et qui ont une espèce d'autorité comme ça. Enfin, c'est les premières scènes quand elles sont toutes petites comme ça, quand elles passent le concours. Je trouve ça hyper bien vu, quoi. C'est vraiment voilà.
Un scénario, moi j'ai l'impression, plus dense que ce à quoi éventuellement Bastien Vivès nous avait habitués. Et donc voilà, graphiquement on en a parlé. Moi c'est peut-être ce que je retiens le plus, même si le scénario est plus dense. Voilà, c'est une très belle histoire, mais qui non plus ne m'a pas complètement retourné. Mais par contre, graphiquement, moi je me souviens de certaines pages, et il y a une page spécialement... Où Paulina danse avec son copain, ou ce qui va être son copain, dans la rue. Elles font, je crois, je sais plus, je l'avais noté, hein, je sais plus si c'est un tango ou une valse, je sais plus très bien. Mais où là, en gros, si on regarde le dessin, ça se résume à des taches comme ça, des taches noires mises sur une page. Et quand on le lit, en fait, c'est un tango, c'est une valse, hein, c'est un truc, moi, qui me souffle quand même pas mal. Et donc voilà, il y a des choses comme ça tout au long du bouquin qui graphiquement sont vraiment impressionnantes, avec, on en parlait, pas mal de sobriété finalement. Donc voilà, donc plutôt je crois une agréable surprise.
Peut-être juste pour conclure, c'est parce qu'en le lisant j'ai repensé à Stéphane et à cette ancienne émission.
Stéphane
où il avait...
qui elle-même a été danseuse.
D'ailleurs maintenant...
De tango.
Quand on avait parlé du fils de l'ours père,
oui.
Tu avais regretté que
absolument.
On parle de création et d'apprentissage de l'acte créatif, forcément.
J'ai fermé ma gueule, mais maintenant je suis obligé de l'ouvrir.
Bah voilà, va me dire Bastien Vivet, ça parle d'apprentissage de l'acte créatif, oui. Avec la danse et pas forcément avec la peinture.
La réalisation de soi passe par la carrière artistique, le développement, l'intérieur de soi, etc., et la capacité de dépasser son mentor. Donc on est quelque chose qui, j'imagine, pour un peu ou prou, est métaphorique par rapport à Vivès lui-même, puisqu'on est exactement dans un canevas comme celui-là, quoi. Donc oui, ça c'est le truc qui me faisait un peu chier, mais j'avais décidé de la fermer en disant bon, ça ne la ramène pas, ton vieux groumph, mais voilà, oui.
Ah, mais je, ah là là.
J'interviens. Oui. Parce que dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une...
C'est pas un art visuel.
Non, non, c'est pas... elle s'accomplit comme elle pourrait s'accomplir en faisant n'importe quoi d'autre. Je n'ai pas le sentiment que c'est lié à un trauma.
J'aurais aimé
pas...
voir ceci dans une carrière de grutier, par exemple. Tu vois, le gosse qui débarque apprend à manipuler une grue dans un port, et puis un jour, son vieux mentor lui dit « Viens, on devrait monter une boîte ensemble. »
Dans le fils de l'ours père, il y a ce côté, c'est un trauma, c'est un mal-être profond qu'on essaye de dépasser par l'art. Ici, j'ai pas le sentiment que elle veut s'accomplir, mais pas au travers d'un trauma, pas au travers d'un mal-être. J'ai pas eu ce sentiment en lisant ce bouquin.
Si tu relis ce bouquin, je suis en train de dire relis ce bouquin, mon gars. Non, mais de fait, quand tu regardes la structure, bon, le mentor, dès les premières, très tôt, il pose la question à Paulina, est-ce que tu sais pourquoi tu danses? Question à laquelle elle est incapable de répondre. Et qui est en fait le sous-texte de l'ensemble du bouquin. Et à un moment donné, après s'être enfouie, après avoir quitté l'amour, après être arrivée à Berlin, etc., elle finit par se réaliser et elle revient le voir parce qu'elle a la réponse. Elle sait maintenant pourquoi elle danse. Et donc il y a cette question sous-jacente de par quoi passe le fait de porter soi-même ses désirs et pas être porté. Enfin, typiquement dans la danse est typiquement une des carrières qui se commencent très tôt. Et donc on le voit, la première scène de Paulina, c'est une jeune fille dans une voiture à qui la mère donne des conseils par rapport à une audition pour entrer dans une grande école. Et donc son désir de danser est porté par sa mère. Ce qui est assez typique de la danse, de fait, donc le choix est assez judicieux par rapport à ça. Et donc, elle va par la suite de devoir découvrir par où passe son propre désir de se réaliser. Et c'est la question que pose le bouquin et auquel il répond. Donc, de ce point de vue, on est tout à fait dans l'idée que l'art permet de trouver le sens de sa propre vie. Malheureusement.
Ou pas.
Je suis pas si sûre par rapport à Paulina, parce que je crois pas qu'à 6 ou 7 ans, t'aies conscience de ça. Elle a été balancée dans un monde... Enfin, ça ou n'importe quelle autre danseuse qui est balancée dans un truc... On s'en rend bien compte quand à un moment, elle essaye de chercher du boulot et elle dit à un barman, je sais rien faire d'autre. Donc, je suis pas sûre que... Qu'est-ce qu'on peut choisir? Qu'est-ce qu'elle pouvait choisir, même en grandissant, puisque de toute façon, sa vie se résume à ça, danser.
Oui, tu ne fais qu'abonder dans mon sens. Ça veut dire que son désir est porté par, son désir est porté par les autres. Oui. Oui, on va.
Bon, Paulina viendra avec Bastien la prochaine fois et on pourra leur poser la question. On va s'écouter un peu de musique, hein, il est l'heure. On va s'écouter Programme, c'est un choix qui est un peu orienté par le bouquin qu'on va chroniquer par la suite, qui s'appelle Ta mère la pute, de Gilles Rochier. On va beaucoup le dire parce qu'on aime bien. Mais voilà, donc je vais m'abstenir de commenter, je crois. Programme, c'est parti.
Ce n'est pas ça. 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 Qui se passe? 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 Ce n'est pas ça. Qui se passe?
Donc une BD avec un grutier, on va essayer de trouver ça pour la prochaine fois, peut-être pas pour le mois prochain, mais en tout cas pour une émission prochaine. Programme, donc on trouve un petit lien avec TMLP, autrement dit Ta mère la pute de Gilles Rochier, sorti chez Six Pieds Sous Terre, bon déjà il y a un certain temps, mais le temps qu'il arrive en Belgique et que qu'on ait le temps de vous en parler, nous y voilà, c'est Nicolas qui va lancer la discussion.
Oui, il y a un mois, je n'avais rien lu de Gilles Rochier, et puis tu as été la découverte d'abord de TMLP, son dernier album, ensuite de Temps mort, et finalement de Les Frères Cracrac, paru aux éditions Jargy. Et je dois bien avouer que j'étais assez emballé, parce que c'est... je trouve qu'il y a quelque chose de très particulier que j'avais du mal à définir dans l'ambiance et graphique et narrative. Et en discutant avec Marshall Joe, il m'avait dit cette phrase, disant « Moi, ce qui marque, c'est un univers hip-hop avec un traitement rock'n'roll ». Et je trouvais ça pas mal parce que ça, finalement, ça correspond bien au travail de Gilles Rochier. À la fois, il travaille principalement des récits qui se passent dans des cités dans lesquelles il a grandi, avec un univers, des dialogues, des personnages qui font vraiment partie de cette culture. De cette culture particulière qu'on associe généralement au hip-hop, mais qui est quand même plus large que ça, mais avec finalement effectivement un traitement graphique très très personnel, assez étrange, que j'aurais du mal à décrire, mais je sais pas si Stéphane qui a plus de facilité que ça pour moi.
Non, c'est assez particulier, qui mêle un peu du dessin d'observation. On sent que c'est quelqu'un qui met assez régulièrement ses carnets de croquis dans ses bouquins même. C'était très clair dans Temps mort, c'est aussi assez présent ici. Et donc, il y a à la fois un traitement graphique très particulier qu'on pourrait dire parfois malhabile, et qu'on pourrait rapprocher de l'époque plutôt punk, en fait, là, pour le coup, puisqu'on parlait de rock'n'roll, de ce qu'on pouvait trouver dans Sortez la chienne ou chez certains Américains contemporains. Donc, c'est vraiment un dessin assez rustre et à la fois assez qui a été cherché sur le motif. Donc c'est un beau mélange de synthèse et d'analyse au niveau du dessin.
Il y a notamment des cadrages assez particuliers quand on veut insister sur certaines choses, comme une sorte de gros zoom comme ça sur une paire de baskets ou sur des visages ou des choses qui sont qui pourraient apparaître grossières et qui en fait sont terriblement efficaces et qui rajoutent comme ça une sorte d'intensité et c'est assez surprenant parce que justement c'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement beaucoup. Parce que voilà, on pourrait se dire oh bon, ça c'est trop gros, on utilise ça beaucoup au cinéma ou quoi que ce soit, et en fait ça marche. Enfin, c'est plutôt bien.
Dans Temps mort, il y a d'ailleurs quelque chose qui, un système qu'il utilise qui est assez marrant, c'est que il y a toute une scène où il est assis dans un fauteuil en train de discuter avec un copain où il est où on le voit de dos, et il est donc toujours au même endroit dans toute la discussion. Mais alors, quand il va se lever, partir à l'ascenseur, en fait, il est toujours exactement dans la même position. C'est-à-dire qu'il ne change pas. C'est tout qui bouge, mais lui semble totalement statique et reste identique dans chaque case. Et c'est le décor qui a changé, qui a évolué. Et graphiquement, ça donnait l'effet marchait bien. Mais pour parler du fond, c'est effectivement autant, il y a effectivement ce côté dessin d'observation et au point de vue finalement du récit, il y a ça qui transparaît très fort. Je trouve ça vraiment vivant. Il y a une façon de nous présenter la cité qui est un univers qu'on connaît moins bien en Belgique, puisqu'on n'a pas les cités ne fonctionnent pas de la même façon ici qu'en France, et que ce qu'on voit de la cité généralement, de ces cités-là, en particulier de la Belgique, c'est celle des infos françaises. Et finalement, on pénètre vraiment dans quelque chose de très quotidien, les jeux, c'est vraiment l'autre côté, l'autre côté de la cité, celle qu'on ne montre pas aux infos, et je trouvais ça vraiment bien. Et donc dans l'album TMLP, en l'occurrence, il va parler d'une bande de copains avec qui il traînait, avec qui il faisait les 400 coudes, et je crois qu'à un moment il dit des gars turbulents mais pas bien méchants, qui sont effectivement, en général, sont pas foncièrement mauvais, même s'ils font énormément de gaffes, et qui évoluent dans cette cité. J'aimais bien cette phrase à un moment où il disait qui porte des noms de poètes qu'on ne lira jamais, où effectivement il y avait vraiment ce décalage, jusqu'au moment où on découvre des choses, où il amène une noirceur petit à petit, puisqu'on va découvrir effectivement, qui donne en partie son titre à l'album, le fait que pour arrondir les fins de mois, certaines mères doivent se prostituer en allant le long d'une route près de la cité. Donc là d'un coup, il y a une ça prend densité en noirceur. On quitte le côté jeu d'enfant pour passer à quelque chose de bien plus grave, et pour terminer avec le récit sur un événement qui fonctionne un peu, qui fonctionne là de façon très très tragique, et qui va durablement marquer tout ce groupe d'enfants, dont je ne parlerai pas parce que je pense qu'il faut vraiment laisser le lecteur le découvrir par lui-même, mais où d'un coup ça tombait aussi comme une grosse claque, je trouve, au point de vue de l'émotion, et surtout dans cette sorte d'épilogue où il va retrouver un de ses copain d'enfance bien des années plus tard et où ils vont avoir une discussion qui m'a laissé juste sans voix, où je trouvais que c'était à la fois fort, juste, sans en rajouter, parce qu'il ne fait pas dans la surenchère tragique d'émotions et autres. Il nous présente ça d'une façon très forte. Donc moi, j'ai été emballé de redécouvrir Temps mort après. J'ai trouvé ça aussi très réussi. Et puis, Les Frères Krakak, qui est un petit bouquin dans la collection BN2, qui est une collection généralement liée à des souvenirs d'enfance et d'adolescence, où il va parler de Frères Krakak. Ça tient en 12 pages, et c'est juste... aussi, je trouve saisissant de faire 12 pages dans un micro format et de réussir à tirer tout le jus de son récit, parce qu'on a vraiment ce que ça, je trouve que c'est ce côté. C'est quoi l'expression, il racle au plus près de l'os, mais ça fonctionne comme ça, quoi. En tout cas, moi, ça m'a vraiment.
Il y a vraiment un côté très efficace dans les trois récits dont on parle. Et alors, moi, j'ai l'impression aussi de tomber presque sur un univers qu'on découvre complètement, alors que l'univers des banlieues ou des cités, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. J'ai l'impression d'avoir déjà lu aussi des choses là-dessus, d'avoir vu des films. Et ici, on a l'impression de découvrir tout à fait autre chose. C'est vraiment assez surprenant. Alors, c'est vrai qu'il faut... C'est plutôt les... l'univers des cités ou des banlieues au début, donc plutôt dans les années 70-80, moins que dans les années 90. Donc c'est aussi, c'est autre chose, peut-être comme contexte, etc. La presse ou ce qu'on en a fait après dans les journaux télévisés et tout ça n'est pas encore fort passé par là. Mais en tout cas, c'est vraiment une sorte d'univers comme ça, j'ai l'impression, tout à fait vierge qu'on découvre. Et pour ça, c'est très intéressant aussi.
Dans Temps mort, ce qui était très présent, c'est que Gilles Rochier fonctionne vraiment comme un passeur, celui qui parle à la place d'eux, non pas qui remplace, mais qui parle pour des personnes en place, puisqu'il y a une très grande banalité, une très grande platitude dans la manière dont il fait discuter ces personnages, qui donne un effet de réel très très fort. On se dit, ok, ça doit être comme ça. De fait, ça n'en ramène pas trop. Et ici, dans Ta mère la pute, on a vraiment aussi cet effet. On est en effet très proche. Il y a très peu d'effets sur. On n'est pas dans 50 Cent, quoi. On n'est pas dans une banlieue où tout le monde a tué quelqu'un, où les grands sont très peu présents, ils sont juste là un peu, etc. C'est une bande d'enfants, là, un peu laissés à eux-mêmes, qui doivent inventer leur propre code, trouver leur place dans ces endroits qui n'ont été faits pour personne. Et Gilles, il est vraiment la personne qui va nous parler de cet univers et faire comprendre ce qui se passe dans la banalité du quotidien. Donc il y a quelque chose de très émouvant là-dedans.
Sans que c'est justement le côté un peu didactique éventuellement, ou un peu pénible de dire, regardez, je vais vous montrer comment c'est. Donc oui, ça ne transparaît pas du tout.
Ce n'est pas la haine de Kassovitz, ce n'est pas le côté ultra esthétisant, je vais vous montrer.
Voilà.
On est loin de ça.
Peut-être que c'est dû au fait, mais je ne l'ai pas lu, je viens juste de le feuilleter un petit peu en ayant encore le morceau
de
programme en tête. Je l'ai lu avec beaucoup d'attention, les trois premières pages, en ayant encore des espèces d'échos de Diabologum, et j'ai l'impression qu'on dit souvent des auteurs qui ont une voix ou qu'ils ont un trait. Et lui, j'ai l'impression qu'il a une diction. Les textes du début, on dirait effectivement, Nicolas, tu parlais de hip-hop tout à l'heure, c'est vraiment cadencé. Il y a une cadence de hip-hop dans le texte. Je trouve ça vraiment étonnant de lire ça, parce qu'on rentre complètement dans l'univers d'un coup, en fait. Là, quelques images, des phrases avec un vocabulaire vraiment très particulier.
Oui, y a un vrai travail de la prose, parce que la lecture, c'est super agréable à lire, parce qu'au point de vue de l'écriture, il y a des phrases qui sont superbes. Et c'est vrai que, comme on parlait du contraste là tantôt, de ces bâtiments qui ont des noms de poètes qu'on n'ira jamais, mais où finalement il y a ce côté-là, c'est de parler de la cité avec ce langage-là. Je trouvais ça très réussi.
Et justement, pas le vocabulaire spécialement, mais vraiment le
style,
le rythme, la cadence, le flow.
Yeah, I'm the flow.
Je rejoins tout à fait Vincent sur cette idée de rythme. Nicolas veut que je dise
dans,
ta mère la
dans
pute.
Quel album,
voilà.
Quel album?
C'est pas moi, c'est Gilles qui l'a demandé.
C'est vrai, c'est Gilles qui voulait.
C'est dans Ta mère la pute.
Vous pouvez
dans Ta mère la pute, c'est ça?
Je suis fatiguée, donc je rougis bien. Je te rejoins tout à fait sur le rythme et j'aime vraiment comment il peut balancer des phrases avec c'est pas de l'humilité, mais c'est avec pas de la retenue non plus. C'est juste, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, quoi. Voilà, c'est comme ça. Peu de choses. Et puis parfois, justement, il cadre sur des choses qui n'ont rien à voir. C'est pas redondant. C'est hyper. Et moi, je trouve qu'il y a une différence entre les frères Cracra, que j'ai beaucoup aimé. J'ai même trouvé ça génial. Sauf la fin, auquel j'ai pas cru, quoi. Qui vient trop vite. C'est un peu dur. Ah ouais, bon, non, pas drôle, quoi. Et dans Ta mère la pute, ce que j'adore, ce qui m'a, c'est que il te laisse le temps de douter, d'accepter ou pas ce qui est en train de se passer, et pas forcément qu'à la fin, dans tout le livre. Et,
oui,
et
y a
ça,
une sorte
je
de
trouve
suspense,
que
il y a quelque chose de standard.
Ouais, c'est juste de la finesse au niveau de la mise en page et de la manière de dire les choses, et je trouve ça vraiment très réussi, quoi.
Ok, on va passer au bouquin suivant où il est aussi un peu question de musique finalement, enfin d'univers.
Tout à fait, c'est un univers musical parce qu'il y avait le côté
une vie sans hip-hop Barjo.
Traité par côté rock'n'roll, et ici je trouve qu'il y a une mélancolie punk. Même
une
si
vie sans Barjo d'Apollo et Stéphane Wary.
Tout à fait, qui est le deuxième volet d'un triptyque qu'il consacre à l'adolescence, qui sont des récits qui ne sont liés que par la thématique, un peu comme l'avait fait Will Eisner avec son premier roman graphique Impact avec Dieu, qui était trois récits autour d'un même thème réunis ensemble. Ici, ils abordent trois destins. Je suppose, puisque le troisième devrait aborder cette thématique-là aussi, liée à l'adolescence, sous des facettes différentes, avec des personnages différents. Ils avaient donc déjà fait Pauline et les loups-garous, paru chez Futuropolis, et maintenant ils font ce deuxième ouvrage, Une vie sans Barjo, aussi chez Futuro, qui graphiquement, là, on est... C'est un peu plus facile à situer dans le dessin de Mezzo et Pyrrhus qui avait fait Le Roi des Mouches, ou un côté burnsien aussi dans l'utilisation massive du noir, mais avec vraiment, je trouve, un trait qui lui est propre, parce que je pense qu'effectivement, c'est les références qui sont souvent associées au bouquin, mais je trouve qu'au-delà de ça, il y a un travail qui est assez remarquable visuellement, qui donne une ambiance assez noire, qui devait être un album en noir et blanc qu'ils ont finalement décidé de mettre en couleur en utilisant des aplats de couleurs assez intéressants dans les bleus, en gardant chaque fois des teintes prédominantes, que ce soit des bleus.
Oui, ça lié aux endroits géographiques, donc... De telle manière à ce qu'on se balade dans le bouquin avec des ambiances colorées à chaque fois, la nuit très bleutée, les intérieurs très rouge-orangé, ce genre de choses.
Et qui va donc, pour ce bouquin-là, aborder un thème moins dramatique que dans Pauline et Loup-garou, qui était un album assez dur sur le rapport à la sexualité, au désir, très trouble. Ici, avec Une vie sans Barjo, on est quelque chose de plus dans la mélancolie, puisqu'on va suivre l'histoire d'un personnage, Mathieu, qui à 18 ans, a son bac dans sa petite ville de province, va partir à Paris pour poursuivre ses études, et c'est l'histoire finalement de sa dernière nuit dans sa ville de province avec ses amis. C'est un road movie, mais il va traverser toute la ville par différents moyens de locomotion pour essayer de retrouver un personnage
une femme,
et accompagné par le fidèle Barjo, un copain lourdingue qui est tout le temps collé à lui, mais finalement qu'il apprécie assez.
Et qui a une philosophie assez intéressante de la vie.
Tout à fait. Qui de son vrai nom s'appelle Jean Mohamed. Qui était de son vrai nom Jean Mohamed.
Qui est bien plus qu'un faire-valoir. Quoi,
qui est plus, oui, tout à fait. Qui
porte vraiment quelque chose d'intéressant dans le
récit. Oui, tous les personnages d'ailleurs, je trouve, portent quelque chose, puisque finalement c'est le fonctionnement du bouquin n'est pas tellement le Mathieu en soi, même s'il est important, mais finalement tout ce que les autres personnages vont avoir à dire pendant cette soirée, et dans des contextes, puisqu'il va retrouver des personnages plus âgés à une soirée qui font la fête comme s'ils avaient 20 ans, et lui qui en a 18 ne fait pas la fête comme les autres parce que Il est pris vraiment de ce côté, de ce rapport à la mélancolie, parce que il sent bien que voilà, c'est un peu un croisement de sa vie. Il y aura le avant et le après son départ à Paris. Et la couverture reprend le personnage en train de marcher au-dessus d'un mur. Et c'est en fait une scène qui est évoquée dans le bouquin et qui rappelle ici même de Tardy et Forest, qui était un bouquin où effectivement le personnage était contraint par la loi de vivre sur les murs de la propriété dont il avait été exproprié. Et là, c'est l'inverse. L'idée, c'est que ce jeune va imaginer que vivre uniquement sur les murs serait la plus incroyable des choses, parce qu'on pourrait aller partout, de jardin en jardin, qu'il y a une volonté de liberté et à la fois de pouvoir vivre entre deux, ne pas devoir choisir entre son adolescence qu'il va laisser derrière lui et son âge d'homme et ses responsabilités et cet autre univers devant lui. Et donc, je l'avais comparé à L'homme qui marche de Taniguchi, dans ce côté contemplatif et qui donne quelque part envie de passer à de prendre la tangente, d'essayer de vivre en faisant les choses en dehors des sentiers battus. Et donc c'est une sorte d'appel comme ça qui est appuyé par toute une série de références, qui s'est bourré de références. Mmh. Dont les personnages parlent entre eux de romantique, poésie, de rock, tout, et qui est...
Il y a un côté un peu archétypal dans le personnage. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ce récit et j'ai pas cru à cet adolescent, parce qu'il a, il est presque trop parfait dans la manière d'avoir, de sentir qu'il est en train d'être au croisement des chemins. Donc il identifie tout de suite que cette nuit est une nuit de toutes les nuits. Il cite abondamment.
Autour de lui, il y a d'autres jeunes qui vomissent et qui font des trucs plus classiques.
Oui, c'est ça, plus classique. Et on sent très fort qu'on est dans quelque chose qui est, voilà, c'est un rite initiatique. Il va traverser la nuit, comme il va traverser cette période qui va de l'adolescence au monde adulte. Il dit au revoir, toute une série de choses en même temps. Il doit se réaliser, etc. Donc on sent là le désir rhétorique des auteurs.
Qui est assumé par les auteurs. Parce que je pense qu'il y a un vrai. Je pense que dans une interview, il parlait de rapport théâtral avec unité de temps, unité de lieu, et qu'effectivement l'idée archétypale est effectivement présente dans leur volonté.
Ça se sent assez fort. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce bouquin, c'est que les personnages secondaires, de fait, qui sont pour la plupart des barjots, donc ou des branques. Donc il y a ce personnage d'un type un peu plus adulte qui est le gars le plus cool de la planète, qui en fait fume joint sur joint et dit des espèces de grosses platitudes de fumeur de joint. Que ces personnages secondaires, avec toute la connerie qu'ils peuvent receler, sont porteurs de vérité. C'est-à-dire qu'à plein moment, ils disent des choses qui vont faire sens pour le lecteur et pour le personnage dans le bouquin. Donc, que des crétins disent des choses qui soient justes par rapport à nos vies est une des choses les plus blessantes qu'on puisse rencontrer et une des expériences les plus intéressantes dans la vie. Et là, elle est utilisée plusieurs fois. Et donc, on se dit, OK, il y a une volonté de faire de tous ces personnages un peu secondaires et branques des passeurs, de vrais passeurs. Puisque ce personnage, je ne sais plus très bien, du mec le plus cool de la planète lui dit « Ouais, tu vois, il y a des cultures comme ça dans lesquelles tu passes par trois états, l'amour, la guerre, l'amour, et puis, enfin, je sais plus très bien quoi, par trois trucs. » Et de fait, le bouquin met ces trois étapes en métaphore pour montrer, pour arriver jusqu'à la réalisation finale à la fin du livre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sensible et bien senti par rapport à ça.
Non, je te rejoins aussi un peu, Stéphane, sur l'espèce de recul qu'il a. En le lisant, je me disais, waouh, si j'avais eu ce recul-là sur les choses à cet âge-là, j'aurais gagné vachement de temps. Mais voilà, juste, je te rejoins là-dessus.
Moi, je trouve que c'est un bouquin qui, sans l'air d'y toucher, finalement, touche à beaucoup de choses, à beaucoup de thématiques. Et pour moi, en tout cas, pas de manière trop lourde ou trop évidente. J'ai ressenti la même chose avec Pauline et les loups-garous, où j'étais plutôt surpris par un bouquin qui, comme ça, par son aspect, hein, c'est tout bête, mais sa maquette, son utilisation des couleurs, semble être un livre grand public, assez facile d'accès, etc. Mais porte en lui quand même des choses, des thématiques assez importantes et a une vraie densité et qui surprend. Moi, j'ai été surpris et progressivement comme ça conquis un peu par le... vraiment envahi par ces questions. Et donc voilà, je trouve que c'est deux bouquins qui sont pour moi en tout cas bien construits, bien amenés, et qui sans être des chefs-d'œuvre sont vraiment de très bons bouquins dans cette catégorie-là, on va dire. Si, je ne sais pas s'il faut parler de catégorie, mais enfin voilà, pour moi vraiment deux bouquins vraiment plutôt intéressants. Et nous allons conclure cette série de nouveautés en parlant de Mambo, de Claire Broad, l'association. Alors, bon, je vais m'y mouiller en tout cas pour le début. Moi, ça faisait longtemps que j'avais plus été positivement, positivement surpris par un bouquin de l'asso. C'est d'abord sa couverture jaune qui m'a plu, qui m'a attiré. Et donc, en gros, l'histoire, je vais juste vous parler du tout début, mais donc on a un personnage qui s'appelle Petula Pete, j'aime déjà beaucoup son nom, qui reçoit la visite d'une sorte de fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations. Ils discutent, ils ont une discussion, très vite il y a un malentendu autour du mot statut, je ne vais pas vous en dire plus. Elle assomme ce personnage pour partir à une sorte de rendez-vous professionnel et laisse ce personnage en compagnie de son tigre. Elle a une sorte de gros tigre à la maison. Et l'histoire démarre comme ça. Et c'est parti pour moi comme une sorte de... Hein, c'est parti pour je ne sais pas combien de pages, mais on va dire plus ou moins une heure quart de lecture, assez folle comme ça, complètement débridée, avec des personnages tous plus fous que les autres. Donc il y a une sorte de guerrier comme ça, aux dents coupantes, qui ne peut pas embrasser des femmes de peur de leur couper la bouche. Il y a un chat avec de la conjonctivite, que je trouve très réussi, magnifiques yeux. La responsable la responsable d'un centre de réinsertion pour jeunes. Il y a vraiment plein de personnages comme ça qui sont très curieux et qui sont en fait la plupart tous obsédés par une seule chose, c'est l'envie de vivre avec un grand V. Et surtout une quête de l'amour. Ils sont tous comme ça en quête de quelque chose. Et donc pendant ce récit, la plupart de ces personnages courent de manière surtout symbolique, parce que finalement, il n'y a pas tant nécessairement une question de déplacement, mais en tout cas cherchent quelque chose. Et donc ce récit part un peu dans tous les sens, graphiquement aussi. Ça m'a vraiment beaucoup plu, c'est du Orca, c'est un dessin qui pour moi est assez libre et assez fouillé en même temps. Il y a pas mal de détails. Et pour moi, le principal mérite de ce bouquin, hormis le fait que la thématique m'a touché, que j'ai trouvé ça un bouquin assez inspirant, assez vibrant, assez touchant, comme ça, qui m'a vraiment pas laissé indifférent. C'est justement la cohérence de ce livre qui semble un peu fou comme ça d'un premier abord, mais qui se tient pour moi aussi bien graphiquement qu'au niveau du récit, avec une vraie fin, pas une fin comme ça qu'on laisse un peu en suspens, une vraie fin, quelque chose qui conclut le bouquin. Et c'est ça qui m'a plu là-dedans.
Ah oui, j'étais réticent à lire l'ouvrage parce que, genre, le feuilletant, j'avais le sentiment que c'était pas généralement le type de récit qui me touche, parce que ça avait effectivement l'air de partir dans tous les sens, et j'ai toujours peur des récits qui ont l'air d'un grand carnaval, avec la peur d'être frustré parce que pas d'attachement au personnage, pas de récit construit ou d'intrigue où finalement j'étais réticent. Et puis effectivement, au bout de trois pages, c'était parti, j'étais pris dans le récit. Et je trouve qu'effectivement, comme le dit Philippe, il y a en réalité une vraie construction sous-jacente à l'histoire, que ça part dans tous les sens, mais qu'en fait tout s'emboîte d'une manière ou d'une autre, tout réintervient à un moment, même si c'est un truc totalement aberrant qui se passe. Il va y avoir quelque part, les choses vont se coordonner à leur manière. Et donc, j'étais assez impressionné. Effectivement, on part avec ces personnages, et surtout le personnage de ce fameux contrôleur de l'État qui se fait assommer au début et qui a un physique ingrat avec une grosse paire de lunettes. Et une des idées les plus chouettes de ce bouquin, c'est ces fameuses lunettes et son regard. Parce que ce gars est absolument infâme. Et quand il retire ses lunettes, tout le monde est subjugué par la beauté de son regard. Et lui, pour pouvoir essayer de le voir, se retrouve devant une glace, retire ses lunettes, mais comme il enlève ses lunettes, du coup il ne voit plus son propre regard et ne peut pas savoir à quel point ce regard est beau. Et c'est toutes des idées qui sont comme ça, généralement très belles ou très fortes ou assez délirantes, mais qui marchent. Donc voilà, j'étais assez vraiment très agréablement surpris par le bouquin, parce que effectivement on se laisse embarquer par l'histoire. Graphiquement, je pense, comme Johanna, il y avait des moments que je trouve moins convaincants, mais que ça tient malgré tout sur très bien sur la longueur de livre.
Moi, quelque part, parce que je trouve qu'il y a des faiblesses au niveau du dessin, mais quand tu vois l'esprit du livre, tu te dis que l'auteur assume probablement complètement. Parce qu'il y a des moments, on passe d'un coup le dessin s'épaissit, d'un coup c'est vraiment laborieux, puis on repasse à quelque chose de plus rapide, de plus expéditif, mais je présume que c'est complètement assumé, quoi, étant donné le ton. Donc voilà, c'est vrai que ça fonctionne, de toute façon.
Il y a tout aussi toute une question sur la comédie du paraître, un peu j'avais lu pas mal de choses là-dessus, où voilà, la plupart des personnages ont des bizarreries physiques ou alors portent des tenues, des costumes, et donc il est beaucoup question de ça aussi, à quoi on ressemble quand on a toutes ces tenues, tous ces déguisements, toutes ces fausses moustaches, etc. Qu'est-ce qu'on est vraiment derrière ça? Et ça, c'est, je trouve, assez intelligent aussi et assez bien tapé. Donc voilà, Mambo de Claire Brown, Vincent Bargeau d'Apollo et Wari chez Futuropolis, et Ta mère la pute, parce qu'on aime bien le lire, aux éditions Chipier sous terre de Gilles Rochier. Voilà, on va s'écouter un peu de musique et on va écouter Teenage Kicks d'Undertones, dont les paroles en fait sont reprises au tout début d'Une vie sans Barjo. Voilà, juste pour faire le lien.
De retour dans le studio, sauf que voilà, il manque la moitié des troupes. Alors, Philippe, vas-y, ferme la porte.
Moi, je suis là pour toi, Vincent.
Donc, on avait un petit peu blagué avant l'émission sur le fait que je mettrais ma chaise en pleine au milieu d'une chronique.
Ben, mais en fait, t'es toujours là. Oui. Tu vas rester avec nous.
Pendant Andreas, je pense.
Super. Ah bah oui.
C'est un cri.
Exactement. Ce serait dommage que tu partes, en effet, pendant la rubrique dont tu dois nous parler. Mais avant ça, donc, petite rubrique grand papier et puis petite rubrique BD oubliée avant d'accueillir nos invités pour Autour du paysage et la suite de l'émission. En effet, Thierry et Evson, là, nous font un salut depuis le bocal. Alors, rubrique grand papier, on voulait vous parler d'auteurs libanais qui sont présents sur grand papier. Alors depuis 2 ans maintenant, notamment parce qu'on les a reçus la semaine passée, enfin ils sont venus à Bruxelles pendant une semaine. Stéphane, tu nous réexpliques brièvement si tu veux bien.
Eh bien, l'année passée j'avais rencontré donc les gens de Sawandal qui sont un collectif de qui publie une revue qui s'appelle Elmame Savandal au Liban, à Beyrouth. Donc, si j'avais rencontré via les Halles de Scarbeck, Fabien Verstraten nous avait mis en contact. Et j'avais fait deux workshops là-bas. Et à la fin de ces deux workshops, qui ont débouché sur le fameux bouquin Revanche, qui a été publié là-bas et qui était interdit d'importation, enfin d'exportation du Liban, parce qu'il contenait des images religieusement offensantes, dont il y a quelques exemplaires passés sous le manteau ici. À la fin de cette expérience, on s'était dit qu'on continuerait bien quelque chose. Et l'idée était venue de dessiner, de partir dessiner ensemble, d'aller dans des endroits que l'un ou l'autre pourrait connaître et qu'on ferait découvrir. Et cette fois-ci, ça a été à nous de les accueillir. Donc, la semaine passée, 5 Libanais sont venus. Hein, et Omar Khoury était là, Joseph. Il y avait aussi Jada Traboulsi, et qui est encore Fitz, et un dernier.
Radi.
Et donc, on est monté dans un minibus et on est allé à 4 endroits, Bruxelles, Charleroi, Anvers et les Ardennes, pour dessiner sur le motif ensemble, se perdre un peu dans la nature, s'asseoir et dessiner des souches d'arbres ou des usines couvertes de rouille. Et le but étant de produire chaque jour, à la fin de la journée, un petit fanzine reprenant des récits et éventuellement des croquis. Ainsi fut fait, et en courant derrière le timing et en étant crevé à la fin de la semaine, ben on a pu produire 4 fanzines et me leur faire manger des stumps à la saucisse.
Voilà, des stumps à la saucisse. Donc, ce qui est intéressant, c'est à la fois de revenir sur la production de ces auteurs sur grand papier, mais donc aussi, en effet, expliquer que vous pouvez retrouver toute une série de leurs productions sur samandal.org, signaler aussi qu'au Moyen-Orient, actuellement, c'est la seule initiative du genre, donc un collectif de bandes dessinées, plutôt de bandes dessinées indépendantes, qui existe maintenant depuis 3 ans. Oui. Il y a d'autres initiatives qui ont été lancées au Moyen-Orient, dans d'autres pays, mais qui n'ont jamais pu
tenir la longueur,
tenir très longtemps.
Il n'y a pas de lectorat, vraiment. On lit un peu de comics, un peu, bon, on lit aussi du manga, mais personne ne se lance à faire quelque chose qui serait... Alors, il faut dire aussi que la particularité de Savandal, c'est qu'il publie des parties en anglais, en français et en arabe. Donc, il y a 2 sens de lecture à l'intérieur du bouquin. Donc, ça fait des objets assez étranges, introuvables ici, évidemment, vendus très, très peu cher. Donc, ils font vraiment un travail d'essayer de mettre dans les mains d'un maximum de gens des bandes dessinées. Et ils essaient de faire du festif, puisqu'à Beyrouth, il faut faire de la fête pour que les choses marchent. Donc, Facebook tourne à blinde et ils font des soirées pour les sorties des bouquins. Donc, ils font vraiment un boulot étonnant par rapport à ça.
Voilà, donc une initiative assez particulière. On vous en reparle aussi parce qu'une série de récits dont on va vous parler très brièvement maintenant ont été réalisés durant les 24 heures 2009-2010. C'est juste aussi l'occasion de vous préciser que les 24 heures 2011, dont on aura l'occasion de vous reparler notamment le mois prochain, seront organisées le 21 et le 22 mai avec cette année-ci une section film d'animation. Voilà, ben on vous en parlera plus le mois prochain. Donc, pour revenir sur quelques récits et quelques noms, donc il y a Mazen Kerbash, on avait déjà parlé de son récit qui est présent sur grand papier, qui est une sorte de récit allégorique sur la communication, ou plutôt l'absence de communication. En le relisant donc tout récemment ici pour l'émission, je relisais des commentaires que lui-même faisait par rapport à ce récit, où il parlait de l'artifice qui est à la fin. Alors, on ne va pas en parler, mais il y a un artifice à la fin de ce récit. Et lui-même postait, en réaction à des commentaires d'autres personnes sur ce récit, il posait la question de savoir si l'artifice était vraiment au service du récit principal. Est-ce que, en fait, le récit aurait pu exister sans cet artifice, alors qu'au départ, ce n'est que un artifice? Donc, il y a ce récit qui existe, qui est assez déconcertant. Et puis, finalement, on se rend compte qu'il y a toute une réflexion de sa part par rapport à ce récit, qui est vraiment étonnant. Et j'ai pas le nom de ce récit, d'ailleurs, je l'ai pas noté, c'est surprenant, mais c'est le seul que Mazen ait pu poster sur grand papier. Donc allez le voir, et bah voilà, vous pourrez nous dire éventuellement ce que vous en pensez. C'est assez intéressant pour cette question-là. Alors, on a aussi parlé de Jana Traboulsi là tantôt. Il y a 2 récits de Jana sur grand papier. Un récit qui s'appelle À quatre mains, qui est un récit fait dans le cadre des 24 heures 2010, qui n'a pas été achevé dans la mesure où il ne fait pas 24 pages, mais qui est un récit très beau, très poétique, avec de très belles images, graphiquement, qui est très réussi. Si vous vous souvenez de la contrainte de l'année passée, il y avait en effet des sons de piano, et ici on a tout un récit qui tourne autour du piano, autour des différents objets, autour des différentes parties, on va dire, plus au niveau du matériel qui font un piano, et qui sont utilisés comme ça de manière assez, donc, comme je le disais, poétique et allégorique pour construire ce récit. Il y a l'utilisation de la page aussi, de l'espace de la page, qui me fait penser à Des chiens de l'eau, d'Anders Nielsen, dont on a parlé il y a un ou deux mois, je crois. Ce sont des récits qui sont diamétralement opposés, mais en tout cas, en le voyant, par rapport à l'utilisation du blanc et de l'espace sur la page, ça me faisait penser à ça. Donc c'est je vous conseille d'aller voir ça. Et alors un autre récit qui s'appelle Our House Unfinished, qui est un récit assez court. Là j'ai l'impression qu'on se retrouve plus dans de l'autobiographie, justement. Ça va un peu à l'opposé du récit précédent, où là on retrouve des références notamment à la guerre civile, et on a un récit comme ça avec des formes géométriques qui sont utilisées pour parler de la ville de Beyrouth en fait qui agit comme ça, comme une sorte de leitmotiv dans pas mal d'histoires. On la retrouvait dans l'histoire de Mazen Kerbash aussi, qui est dans le monde diplomatique, dont oui, on a parlé il y a deux mois, et qu'on retrouve aussi dans une histoire d'Atem Imam qui s'appelle Consequently Words Will Recede at the End of the Day, qui est une histoire comme ça qui mêle finalement un peu de l'univers de Mazen Kerbage avec quelque chose qui est fort sur le dialogue, fort sur le texte comme ça, alors que là c'est en tout cas dans l'histoire d'Atem Imam c'est en arabe, donc on ne comprend pas a priori le texte, mais il y a quelque chose de nouveau sur le lettrage, sur les bulles, qui est assez surprenant et qui est entrecoupé d'images de la ville qu'on suppose être Beyrouth. Et donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant à voir. C'est comme quand on voit comme ça une rétrospective de film d'un réalisateur où on se rend compte, en fait, c'est un peu toujours les mêmes acteurs qui jouent, c'est un peu toujours les mêmes décors, sauf que tout ça est manipulé d'une manière ou d'une autre, tout ça est modifié, qui fait qu'on a l'impression de chaque fois voir un nouveau film. Mais j'ai un peu l'impression d'avoir retrouvé ça dans toute une série d'histoires, où il y a des acteurs qui reviennent, notamment ces bulles comme ça, avec toute une série de dialogues, de mots. Les mots sont souvent fort présents comme ça, et ont une valeur supérieure à celle qu'uniquement être des mots, qu'être des dialogues. Et alors Beyrouth, qui occupe pas mal d'espace.
Oui, là, c'est Beyrouth qui a une architecture assez étonnante pour moi qui suis allé là-bas. C'est une ville qui a été éventrée par la guerre, coupée, saucissonnée par les scissions entre différentes communautés, une ville qui a été détruite partiellement par les politiques claniques de prendre la ville, de se faire du pognon en faisant abattre des vieux quartiers et en reconstruisant des choses pour les touristes à la place. C'est une ville aussi dans laquelle des gens se sont enfouis en laissant des buildings à moitié construits qui restent là à l'état de chantier pour l'éternité, on le dirait, parfois à des endroits très très beaux comme les bords de mer. Donc on est au bord de mer et on voit des structures plateau en béton plus pilasse en béton qui sont comme ça sur fond de mer méditerranée au soleil couchant. C'est des visions assez étranges.
On va faire une bonne BD avec un grutier là-dedans.
Et une bonne BD avec un grutier là-dedans.
Le potentiel pour cette BD
un grutier un peu à la Forêt, un peu là ici même, qui serait obligé de rester sur un bâtiment attendant que les travaux reprennent. Les travaux ne reprennent jamais.
On peut tout mélanger. Là, on tient un bon scénario. En tout cas, on a du matos. Et on finira avec deux auteurs qu'on va rapprocher, mais plus, on va dire, un peu par manque de temps, mais avec deux histoires qui... Donc, c'est Omar Khoury, une histoire qui s'appelle Joe's, un point d'interrogation derrière, et une histoire de Fitz qui s'appelle Laundry Day, avec des univers très particuliers, assez barrés, assez surprenants, et avec un côté vraiment burlesque. Et là aussi, j'ai l'impression de sentir comme ça une sorte de fil rouge au travers des histoires de ces deux auteurs, mais d'autres choses aussi. Donc voilà, on vous engage à aller voir tout ça, et surtout aussi d'aller voir d'aller voir sur samandal.org, parce qu'il y a, d'autres histoires, d'auteurs libanais, mais aussi d'autres auteurs, des auteurs français. Qui ont participé à ces collectifs. Et donc voilà, c'était l'occasion de mettre un coup de projecteur, c'est très français, un coup de projecteur sur cette production-là. Et on passe à une autre rubrique qu'on n'a plus faite depuis un certain temps. Et c'est Vincent qui va mener la danse sur cette rubrique BD oubliée et qui va nous parler un petit peu d'Andreas.
Alors, c'est...
qui est Andreas, Vincent ?
Assez court. Ça va être donc plutôt de l'ordre. On commence à avoir un peu à chaque émission des espèces de cris d'amour pour la dernière émission, c'était les plaines fiévreuses du canto. Donc aujourd'hui, ça va être de l'ordre du brame en fait, parce que j'aime vraiment beaucoup Andreas et je trouve qu'il
est-ce que tu peux nous faire le brame
Je suis un peu enroué là.
J'aurais dû
chanter tout ce hardcore en venant en voiture, donc en plus il pleut. C'est pas tellement qu'il soit oublié, puisqu'on finalement on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Je trouve qu'il est. Est-ce qu'il est typiquement.
Sous-estimé,
mais plutôt, j'ai l'impression qu'il trouve juste plus sa place maintenant dans la BD actuelle. C'est-à-dire qu'il est trop, peut-être trop classique, trop old school pour être vraiment dans la BD indépendante. Ouais, dans la BD adulte, il n'y a pas de violence, il n'y a aucune tête qui explose, il y a finalement assez peu de sexe. Il avait vraiment sa place dans le Tintin, du magazine Tintin, quand je l'ai connu, quand j'étais tout gosse. Et où d'ailleurs je le détestais, Rourke, je ne supportais pas Rourke dans Tintin, ça m'avait même traumatisé. Ce qui fait qu'à 18 ans, je me suis rappelé de ce traumatisme et j'ai redécouvert Andreas.
Oui, il y avait ce magnifique planche, c'était Cimetière des cathédrales, qui est une planche, une double page absolument saisissante. Oui, c'était absolument magnifique, en plus le concept de cimetière des cathédrales, où c'est un ensemble de cathédrales abandonnées en pleine nature. Enfin, c'était absolument magnifique, mais effectivement très marquant. Et effectivement, pour l'époque, je n'aimais pas non plus.
Moi, c'était peut-être moins celui-là, c'était d'autres, des visages très étirés. Enfin, il y avait un côté très expressionniste et très violent sur les corps.
Très goth, hein, c'est un espèce de personnage à cheveux blancs, avec une longue, avec un calot manteau noir, silencieux, et qui fait un peu, qui est tout puissant, mais silencieux, etc.
Je trouve que, notamment dans Capricorne, qui est sa série actuelle de Lombard, qui d'ailleurs vient d'être arrêtée, le dernier tome, après ils arrêtent Capricorne parce que ça ne se vend pas assez. Je ne sais pas si ce n'est pas aussi un problème de mise en avant par l'éditeur, parce que finalement Capricorne, en tant que tout cas journaliste, je n'entendais pas du tout parler. Alors que je suivais les albums quand ils arrivaient, j'étais toujours assez impatient de les lire, et je trouve que notamment les derniers, j'en ai un en tête plutôt, qui n'a d'ailleurs pas de titre, qui se passe totalement dans la neige, où aucun mot n'est prononcé, et qui finalement est une belle réflexion sur la bande dessinée où un mot écrit est aussi un mot prononcé. Aucun mot n'est vraiment écrit. Même le nom d'une gare est à moitié effacé par la neige. À cause du risque d'avalanche, personne ne parle, il communique par geste. Et c'est pas non plus une BD très démonstrative sur le fait que je fais une super BD où il n'y a pas de mots, une BD muette. C'est juste quelque chose de totalement intelligent et cohérent. Et aussi, quelque part, une réflexion sur la bande dessinée. Il y a aussi Rêve en cage, où il joue sur la grille, qui est une espèce de long délire très surréaliste sur la grille.
C'est dans la série Capricorne. Ouais.
Ça, c'est sa série en cours. Et je trouve que c'est très triste de voir que... En fait, ça me rappelle les premiers mangas qui sortaient en France, où on ne savait pas où les mettre dans les librairies, parce que c'était trop adulte pour être avec Tintin et Spirou. Mais ce n'était pas possible de les mettre non plus avec les BD adultes, genre les magazines porno, etc. Donc, y a un peu, j'ai l'impression que ce cul entre deux chaises, Andreas, maintenant, qui fait qu'il a du mal à trouver sa place. Là, je crois qu'il travaille sur un tome zéro de Rourke. Et on voit les planches sur son Twitter. Il en met régulièrement des dessins. Et je suis toujours épaté et le cul par terre quand je vois les planches et le style d'Andreas. Et je trouve très dommage qu'il ne soit pas plus reconnu. Il a beaucoup d'autres aussi, des BD one-shot comme La Caverne du Souvenir, que je trouve magnifique, sur les mythes scandinaves, les mythes nordiques, ce genre de choses. Et Rourke aussi est quelque chose que j'ai redécouvert à 18 ans. C'est magnifique dans les influences, l'influence Lovecraft, le style très art déco qu'il a énormément épuré, notamment dans Capricorne. Il est devenu quelque chose de très années 30, très, à la fois très clean et je trouve beaucoup de jeux sur la mise en page, beaucoup de jeux sur la narration. Donc voilà, peut-être pas oublié, mais peut-être plus effectivement méconnu ou en tout cas mal placé dans la bande dessinée actuelle.
Tout à fait, parce qu'il est, effectivement dans l'expérimental, mais pas dans l'expérimental démonstratif. Et c'est ça qui le rend... Effectivement, chacun de ses bouquins sont des réflexions sur... sur la mise en page, le découpage, mais là où Marc-Antoine Mathieu a adulé où tout le monde connaît ses bouquins parce qu'il fait, fait des jeux comme finalement ceux d'Andreas, mais en allant plus loin et en faisant que le récit est juste une réflexion là-dessus. Chez Marc-Antoine Mathieu, il est reconnu pour ça. Finalement, Andreas ne l'est pas, alors qu'il fait aussi un travail équivalent, mais qui reste... dans la logique du récit classique, de l'aventure. Et effectivement, il est entre les deux, même au point de vue de sa démarche. Ce qui fait qu'il a du mal à être reconnu soit par ceux qui se passionnent pour le travail de recherche ou d'expérimentation en bande dessinée, et d'un autre côté, n'intéresse pas ceux qui veulent simplement de l'aventure épique sans... album entièrement muet qui se demande encore pourquoi il paierait autant pour acheter un album où il n'y aurait même pas de bulle, quoi. Mais c'est vrai qu'il est coincé un peu entre les deux, effectivement.
Oui, ça. Il y a aussi un sens du grand œuvre dans sa manière de dessiner. On sent quelque chose assez grandiloquent qu'on peut retrouver typiquement dans la bande dessinée des années 80 avec Skeuten Peters quand ils ont commencé Bruxelles et ce genre de choses. Une espèce d'attachement à la belle planche, à la chose bien construite, un amour du métier qui en fait une espèce de dessinateur un peu old school comparé à des Vives, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, qui sont des gens qui dessinent à l'économie rapidement, faisant un grand vol. Des grands volumes en très peu de temps. Ici, on a encore cette espèce, on sent cette espèce de désir de faire métier de la bande dessinée qui est relativement datée aussi. Donc, c'est aussi un choc des cultures dans la manière d'aborder la bande dessinée.
Vincent, un brame ?
Non, peut-être en podcast, j'aviserai. On en fera plusieurs, on
garde le meilleur. Comme quoi, en podcast, vous perdez la musique, mais vous aurez un brame de Vincent Degré. Ça, je crois que ça vaut vraiment la peine. On va s'écouter un peu de musique avant de faire entrer les invités et de passer à la suite de l'émission. Prosper Iburi, c'est Johanna qui a joué dedans, je crois, et qui va nous le présenter.
Pas du tout.
Ah non, tu ne joues pas dedans. Ah,
tu dansais dedans, alors.
Tu dansais dedans.
Je dansais dessus.
Tu dansais dessus.
Mais non, pas du tout. Non, c'est un auteur de bande dessinée qui est notamment dans Le Dernier Lapin, je pense. Et je pense qu'on parlera sûrement de son travail dans le cadre des 24 heures, puisqu'il sera à Périscopage. Voilà.
Nous écoutons ça.